your charm has done to me. Ain't no sugar water run through my veins. It's raining so hard. Radio G. 101.5 FM.
Un mercredi sur deux à 19h avec Claire, Mel et JR. Sur Radio G et on se retrouve pour une nouvelle émission, du coup Bob Plash comme d'habitude. On va arrêter peut-être de se présenter, en tout cas je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui comme d'habitude j'ai envie de dire, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Mel.
Coucou.
Où je te laisse régler ton problème. Et est-ce que vous allez bien?
Ça va bien.
On va bien, il fait beau pour une fois.
Première émission de décembre en plus.
C'est vrai, première émission de Noël et du coup on aura cette émission. Et l'émission du... On verra.
Oui.
Mais en tout cas, cette émission sera l'avant-dernière de l'année. Et notre dernière émission de l'année sera en épisode spécial Noël, je propose.
Ouais, pourquoi pas.
On n'en a pas encore parlé, mais on verra de toute façon. Mais de toute façon, on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de jeux vidéo avec Mel. On va parler de films avec Claire. Et avec moi, on parlera de manga. Il y aura évidemment les deux pauses musicales habituelles. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez un café en chocolat chaud, installez-vous. Et on part tout de suite avec Mel.
Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Alors, aujourd'hui, j'ai mes petites notes, mais pas de chronique écrite, pour une fois. Et vous allez voir, ça va être plutôt un Game Pop où on va parler des Game Awards. Notamment le fait qu'il y a un jeu qui a battu le record historique des Game Awards. Ce qui est plutôt pas mal. Et c'est français, mais vous allez voir. Alors... Déjà, on va parler du les Game Awards, les nominations qui ont été annoncées en mi-novembre 2025. On nommait les Game of the Year, donc les GOTY, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Donkey Kong Banaza, Hades 2 et Hollow Knight Silksong, ainsi que Kingdom 2 Deliverance 2. Et déjà, rien qu'en citant les Game of the Year, donc les GOTY, on peut se rendre compte d'une chose. Je sais pas si vous, vous l'avez remarqué, JR, Claire.
C'est pas des gros jeux. Enfin, c'est pas des gros triple A. Hein.
Bon, de l'autre côté, les triple A qui sont sortis cette année, c'était de la belle merde. Hein.
Déjà, c'est pas des triple A. Et puis, parmi tous les jeux, il y en a qu'un seul qui est un jeu original, qui n'est pas une suite ou une licence.
Ah, c'est vrai.
Clair Obscur Expedition 33 est le seul jeu qui n'appartient pas à une licence déjà existante, comme par exemple Donkey Kong, qui est une licence qui existe depuis une vingtaine d'années.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui, dans les GOTY?
J'en ai même pas entendu parler.
Alors, moi, j'en ai entendu parler, et encore une fois, les gens ont le droit d'aimer, vous avez le droit d'avoir de mauvais goûts, hein.
Non, mais c'est surtout que toi, t'es un hater de Nintendo, mais
c'est même pas ça, il a pas l'air bien.
Alors, si justement, il a l'air très très bien pour un Donkey Kong, il révolutionne le genre. Il est magnifique graphiquement. C'est un des premiers Donkey Kong qui a la plus belle DA pour un Donkey Kong.
Encore une fois, t'as une magnifique DA par rapport à un truc où en fait parfois t'as l'impression juste que t'as raclé les chiottes. Ouais, forcément.
Mais après, ça peut aussi donner un nouveau départ à la licence.
Voilà, oui. Donc moi ça m'étonne pas trop parce qu'il a fait beaucoup de bruit, que ça a été l'un des gros titres de Nintendo cette année depuis la sortie en juin, il me semble.
Oui, non, mais il est sorti en juin et je comprends.
Et c'est le jeu qui a le, du coup, coup, sur Nintendo qui a le plus fonctionné pour l'instant, même s'ils vont sortir d'autres jeux qui fonctionneront mieux en 2026. Mais voilà, Donkey Kong, donc, qui est une licence, Hades 2, bon, bah, et comme le dit son nom, 2, donc c'est une suite, voilà. Même si il y a aucun souci qu'il y soit, parce que apparemment, j'y ai jamais joué, mais toi, JR, je sais
il
que t'es un
génial.
Fan de
Hades. Et merveilleux, il est beau.
Ouais. Donc voilà, Hades 2 a une magnifique DA aussi, donc ça, il n'y a pas de souci, mais c'est encore une suite. Hollow Knight Silksong, qui apparemment est génial.
Il est merveilleux.
Mais, c'est une suite également.
Ouais, c'est vrai.
Et Death Stranding 2 on the Beach, qui est incroyable, mais qui est une suite
on,
également.
On va en parler aussi de Death Stranding 2, parce que on connaît tous les Kojima sexuels.
Oui. Non, mais, je connais pas, c'est quoi ça?
Est-ce que t'aimes la randonnée, Mel?
Ouais.
Est-ce que t'aimes la randonnée, Claire?
Non.
Alors tu vas détester Death Stranding 2. Parce attends. Que le but de Death Stranding 2, c'est que tu as quelque chose à livrer et il va falloir que tu marches longtemps.
Bah, c'est un monde ouvert?
Non, c'est un monde ouvert, mais en fait, le truc, c'est que c'est le nouveau jeu de Kojima. J'ai joué au 1 et en fait, genre, tout le monde est en mode le jeu est dur. Non, le jeu est pas dur. En fait, genre, j'ai fait le jeu en difficile et je ne suis pas mort une seule fois. Et pourtant, je suis pas bon en jeu vidéo.
Oui, mais ça, c'est le 1 ou le 2 donc.
Le 1, mais le 2, c'est pareil. Et tous les gens disent, tous les gens crient au génie parce que c'est Kojima. Mais à un moment, vous savez quoi? Non, je vais rien dire, je vais m'attirer des ennuis
mais
et je vais
moi,
avoir des lettres de menace.
Je pense que c'est pas tant le gameplay qui a été acclamé, c'est peut-être plutôt les visuels qui, on va pas se mentir, Death Stranding 2 avait l'air magnifique. Hein. Notamment au niveau de la mocap et tout ça, qui avait l'air. La mocap motion capture, qui avait l'air exceptionnel. Donc je sais pas, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il a.
Je pense qu'on va arriver au premier débat. C'est que pour moi, un jeu qui est au GOTY ne doit pas être là juste parce qu'il a un bon gameplay, juste parce qu'il a des bons visuels. Il doit être là parce qu'il a des bons visuels, un bon gameplay et qu'il est bon en fait en règle générale.
Oui.
Si je veux aller voir quelque chose qui a des beaux visuels, ben je vais regarder une série animée. C'est mon avis. C'est peut-être que je suis encore une fois le vieil aigri. De toute façon, j'ai l'habitude d'avoir ce rôle. Mais
non, je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a des jeux où tu peux juste où le principe c'est juste de se balader dans un monde magnifique. Il y en a deux qui sont sortis il y a pas longtemps. Un, j'ai vraiment oublié le nom, mais c'est littéralement tu te promènes, t'es un petit cochon de lait avec un chapeau fleur sur la tête. Et c'est juste ça le gameplay. Et tu te promènes dans la nature, mais le jeu est magnifique.
Et c'est très bien, mais c'est pas en GOTY. Et là, j'ai l'impression que pour Death Stranding, le seul truc qui fait que c'est en GOTY, c'est que c'est marqué Kojima.
Moi, je pense pas. Je pense que pour être au GOTY, il faut marquer l'année. Si t'as réussi à marquer l'année, bah, pour moi, oui, c'est bon, t'as ta place.
Ouais.
Après, ça, c'est une question de goût, et c'est pour ça qu'il y a un vote aussi, à la base. Oui. C'est pour permettre aux gens de choisir vraiment celui qui, pour eux, a été le jeu vraiment de cette année. Mais parfois, ouais, c'est très bien d'avoir un jeu beau et travailler dessus. Et il y a des gens qui, effectivement, n'iront pas vers tous les jeux, qui ne s'amuseront pas à comparer tous les graphiques et qui diront « Ce jeu-là, moi, je l'ai aimé, je l'ai trouvé beau en plus et ça m'a hypé. » Et en fait, c'est suffisant, tu vois.
Ouais.
J'entends ce que vous voulez dire. Je ne suis pas spécialement d'accord.
Ouais.
Parce que dans ce cas-là, en fait, n'importe quel jeu qui a un temps un peu marqué, on va dire, le plus grand monde et qui peut être très bien mauvais, en fait, mais qui est juste qui a marqué, genre en Call of, tu vois, peut être GOTY et c'est quelque chose qui fait que si c'est le cas, les GOTY veulent plus rien dire.
Non, parce que ça montre juste un succès d'un jeu, genre en mode ce jeu-là a vraiment plu à beaucoup de gens et l'équipe derrière elle mérite d'être récompensée parce que ils ont travaillé comme des chiens sur le jeu et que tout ce travail se paie. Ouais, d'accord, c'est peut-être sûrement souvent des suites effectivement et des trucs, mais. Mais c'est du travail derrière, en fait.
Oui, il y a toujours du travail derrière.
Pour moi, c'est très élitiste de dire « Ah, faut vraiment que le jeu soit vraiment bon et qu'il change la donne. » pas toujours. Parfois, pas changer la donne, ça permet de faire évoluer les choses aussi.
Je pense que vous êtes beaucoup plus gentil que moi.
C'est possible. Et il y a aussi Kingdom Come Deliverance 2. Alors, le jeu est incroyable et je comprends. Mais encore une fois, c'est une suite. Donc, en fait, il y a vraiment... que Clair Obscur qui n'est pas une suite parmi les GOTY de 2025 et ça pose énormément de questions. C'est comme l'an dernier dans les Game Awards de 2024, il y avait un DLC.
Oui, c'est vrai.
Le DLC de Elden Ring.
C'est un jeu à part entière. Enfin, soyons francs, c'est un jeu à part entière, le DLC d'Elden Ring.
Mais ça reste un DLC.
C'est le nom du DLC, mais en fait, quand tu regardes ce qu'il propose, ça aurait pu être un jeu à part entière.
Oui, d'accord, mais dans ce cas-là...
Non, mais après ça n'avait pas sa place. Oui, encore une fois, ça n'avait pas sa place là. Je suis complètement d'accord.
En fait, je pense que ça peut avoir sa place là, mais pas forcément dans le GOTY, mais par contre, être nominé dans une des catégories, pourquoi pas, tu vois.
Il y a une catégorie DLC, hein.
Voilà,
mais... C'est vrai que c'est juste bizarre qu'il ne soit pas dedans. Et
il a gagné la catégorie DLC de mémoire.
Je sais pas. Côté, je me souviens pas, mais il était quand même dans le Game of the Year.
Oui.
Ça pose des questions. La cérémonie avec la remise des prix est prévue pour le jeudi 11 décembre 2025, mais on se doute bien que le gagnant, ça va être Clair Obscur Expédition 33. On peut avoir des surprises, mais bon, en fonction des prédictions, et même, vous allez voir pourquoi on pense que Clair Obscur va gagner. C'est le premier jeu des Game Awards qui a le record historique, puisqu'il a reçu 12 nominations pour les Game Awards 2025 et que c'était jamais arrivé dans l'histoire du jeu vidéo des Game Awards. Ce qui le rend encore plus mémorable, c'est que c'est un jeu considéré comme indépendant et qu'en plus de ça, c'est un jeu français, Cocorico, et que c'est extrêmement rare d'avoir des jeux français en GOTY. Et qui se démarque à ce point et par la culture française, parce que c'est vrai, bon, on va pas se mentir, Clair Obscur Expédition 33, c'est très cocorico, quoi. Il y a des skins bérets, bérets baguettes. Oui, oui, baguettes.
Avec une baguette.
Voilà, donc là, c'est très Frenchy et.
C'est giga bien.
Et du coup,
le soft power pour une fois de notre côté, quoi.
Ouais. C'est ça, et c'est le seul. C'est le seul qui a gagné autant de catégories, et donc les catégories dans lesquelles Clair Obscur est nominé, sachant qu'en plus, il y a des petites catégories dont il a été nominé, mais qui ne sont pas citées là, mais les 12 principales, donc jeu de l'année, donc le GOTY, forcément, meilleure direction du jeu, meilleure narration, meilleur jeu indé et meilleur premier jeu indépendant, meilleur RPG, meilleure direction artistique, meilleure musique bande originale, meilleur design audio, meilleure performance voix acteur, et le jeu est nommé pour au moins minimum une performance d'acteur. Ça veut dire qu'il peut y en avoir plus.
J'ai l'impression que c'est Daenerys qui parle de ces titres.
Ça fout le vertige.
Oui, sachant que la liste officielle compile 29 catégories, mais ce sont celles qui sont régulièrement citées pour Clair Obscur, mais sachant qu'il doit être sûrement nommé dans d'autres plus petites catégories. Sachant que Clair Obscur, du coup, a gagné récemment le Golden Joystick Award, et c'est pour ça qu'en fait avec JR on était perturbés, parce qu'on s'est dit mais attends, les Game Awards ils sont passés, vu que tout le monde dit que Clair Obscur a gagné, Obscur c'est le GOTY de 2025, tout le monde l'annonce comme ça, et en fait les articles parlent volontairement des Game Awards pour faire du clic, mais en fait les Game Awards ça se finit le 10 décembre, donc les votes pour nous, c'est la fin, c'est le 10 décembre, et la cérémonie, c'est le 11 décembre. Donc s'il faut, on va avoir une big surprise, et s'il faut, c'est Donkey Kong Banzana qui va gagner, on ne sait pas.
C'est dingue en vrai.
Parce qu'en fait, les Golden Joystick Awards ont eu lieu récemment, et c'est Clair Obscur qui a gagné. Voilà, donc les Golden Joystick, c'est une cérémonie de récompense de jeux vidéo qui est l'une des plus anciennes de l'industrie, et c'est un peu le prix du public avec une forte dimension de vote populaire, et du coup ça a eu lieu le 20 novembre, et c'est pour ça que tout le monde dit Clair Obscur a gagné les Game Awards, etc., parce qu'en fait ils partent du principe que s'ils ont gagné les Golden Joystick, ils gagneront forcément les Game Awards.
Après, il le mérite, encore une fois. Tu sais que Clair Obscur a marqué quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que les Français savent faire un truc mieux qu'Ubisoft. Allez, hop, lancez une crotte de nez sur Ubisoft. C'est fait, on peut passer à la suite.
Donc, du coup, sachant qu'en plus, il faut savoir que Clair Obscur Expédition 33, les Golden Joystick, c'est l'ultimate game of the year. Donc, en gros, le jeu, il a tout raflé. Il a également raflé plusieurs autres prix cette nuit-là, comme la meilleure narration. Il y a eu la meilleure narration, la meilleure direction artistique visuelle et la meilleure bande originale. Studio derrière Clair-Obscur, donc Sandfall Interactive, a été élu Studio of the Year. Donc, voilà. Et c'est un jeu récent, français, et donc, voilà, c'est... Clair-Obscur, c'est sûr qu'il rafle tout en 2025 et que le 11 décembre, on sait déjà que c'est Clair-Obscur qui gagne. Il y a, je pense, très peu de mystère. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que, surtout dans le côté français, qui disent que il y a moyen que ce soit notre jeu qui gagne parce que les sponsors et les journalistes qui couvrent du côté français la partie Game Awards, c'est BFM TV, jeuxvideo.com, wow. Julien 16 et d'autres trucs comme ça. Et en fait, beaucoup parlent de légitimité de ces personnes-là, sachant que, est-ce que vous savez qui est la plus légitime dans tous ces journalistes-là qui sont sortis?
Tu veux une réponse honnête ou tu veux une réponse pas honnête de ma part?
Vas-y, fais ta réponse honnête.
Bah, Okan, parce que je suis désolé, jeuxvideo.com, ça fait... Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas sorti genre juste de la merde?
Après,
BFM
ça dépend.
TV, bon, vous savez quoi, on va pas cracher sur des collègues. Là, Julien Chiez, bah, il a touché le chèque.
Eh bien, sachez que la journaliste la plus à même d'être la plus légitime dans les Game Awards par rapport à ça, c'est une journaliste de BFM TV. Alors moi j'aurais pas cru comme ça, mais effectivement on n'aurait pas parié sur ça, mais apparemment ouais c'est une très bonne journaliste jeux vidéo qui
dont j'ai
oublié malheureusement le nom, mais voilà, donc c'est important quand même de
on
se
parle
dire
d'un jeu français à la base. Tu vois BFM TV pourrait descendre beaucoup de jeux. Est-ce qu'ils descendront Clair-Obscur? Non.
Non, bah non, parce que c'est français. Vous aimez, c'est français. Non.
Français.
Mais du coup, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais est-ce que c'est légitime? Oui, certains sont légitimes. D'autres non. Julien Chiez, alors je sais que c'est compliqué parce qu'il a eu plusieurs polémiques, etc.
Bah, surtout qu'il a sorti des critiques qui n'étaient pas du tout objectives parce que justement c'était sponsorisé. Une fois, on va citer un autre youtubeur français. Hein. On a le seum, mais lui, il a touché le chèque.
Mmh.
Et voilà, et le truc, c'est qu'il n'a plus aucun. Il a une réputation de vendu et il n'y a pas de fumée sans feu.
Mmh.
Le problème aussi avec jeuxvideo.com, c'est pareil. Il y a certains jeux qui sortent qui sont factuellement mauvais et ils vont dire qu'ils sont magnifiques parce qu'ils vont jouer en avant-première, tout ça. Il y a des très bonnes vidéos qui vont parler justement. Je sais pas si vous connaissez Iconoclast,
oui.
Qui pour le coup je trouve est une bonne chaîne de jeux vidéo et qui parle justement de certains scandales qu'il y a eu dans le milieu du jeu vidéo et surtout dans le milieu de la critique du jeu vidéo. Et en France, le seul qui est ressorti, c'est jeuxvideo.com parce que en fait ils font des critiques qui ne sont pas objectives, ils font des critiques qui sont subjectives et forcément ils sont obligés parce qu'ils ne sont pas indépendants et du coup ils veulent garder leur sponsor et le fait qu'ils puissent
c'est normal, ils doivent vivre
tout.
Aussi hein.
Ils doivent vivre aussi, mais en fait encore une fois on va parler de déontologie là purement. Est-ce que on accepte en tant que joueur et en tant que du coup consommateur d'avoir des tests qui sont biaisés où on nous met 18 à des jeux qui sont souvent des redites et qui sont médiocres, genre les Call of. Alors, je suis désolé, Call of Duty 7, je crois qu'ils lui ont mis 17. Désolé, qui est sorti cette année. C'est une bouse monumentale. J'aime pas Call of. D'abord, je dis toujours que c'est de la merde. Mais là, je suis même pas le seul à le dire. C'est une bouse. Et ils lui ont mis genre entre 15 et 17. C'est honteux.
Après, jeuxvideo.com, je sais pas, est-ce qu'ils se doivent d'être impartial ou est-ce qu'ils peuvent dire, moi j'ai mis 17 parce que j'ai grave kiffé? Et peut-être qu'en fait, c'est juste leur point de vue. Ou est-ce que, vu que ce sont des journalistes, je crois qu'ils sont considérés comme journalistes, en tout cas, ou chroniqueurs jeux vidéo, est-ce que du coup, ils devraient se montrer le plus neutre possible, un peu à l'image de Hugo Décrypte, qui se doit de montrer des faits et parler de fait sans donner son avis dans tout ce qui couvre comme information et comme nouveauté, etc. Sachant que bon, Hugo Décrypte, c'est encore autre chose, c'est des actualités, oui. C'est de la politique, etc. Mais c'est pareil pour le jeu vidéo au final. Est-ce que du coup, vu qu'ils sont considérés comme journalistes, ils doivent être neutres, ou est-ce qu'ils ont le droit, parce que ce sont des humains et que ce sont des personnes comme vous et moi, ils ont le droit de dire bah moi j'ai grave kiffé, du coup je mets 17 à ce jeu vidéo.
Ils peuvent. La seule question, c'est en fait, ce serait bien si c'était sincère. Et c'est ça le truc, et c'est là que le bas blesse. C'est, oui, tu peux donner ton avis, et si t'as eu un jeu qui était pas forcément bon pour la plupart des gens, c'est pas bien grave, t'as le droit d'avoir ton avis à toi. Par contre, ce qui est problématique, c'est quand t'es là pour conseiller les gens et que les gens décident ou non de dépenser leurs sous dans un jeu pour toi, alors qu'en fait toi tu sais très bien que t'es foncièrement pas honnête parce que tu mettras forcément un bon avis parce que c'est un gros studio et qu'il y a des sous de côté. Et c'est là où c'est compliqué parce que jeuxvideo.com a beaucoup d'influence sur les gens et s'ils achètent ou non à l'heure actuelle encore. Mais de l'autre, bah, s'ils étaient vraiment parfaitement honnêtes et s'ils servaient vraiment leur purpose, leur but, ils devraient pas faire ça, tu vois.
Ouais.
Moi, c'est ça qui me questionne parce que souvent...
On voit un pattern.
C'est ça. Et souvent, ils vont mettre des avis super positifs sur le jeu, mais tu vas voir que si en fait le jeu fait un gros bide après, ils vont faire un article en disant oh, le jeu qui avait pas des très bons prémices, ils sont pas vraiment honnêtes, ils suivent un peu juste la tendance.
Et du coup, en fait, okay. À partir de ce moment-là, quand tu vois un pattern, quand tu vois ça, genre, en fait, un des youtubeurs qui montre très bien ça, et pourtant, il donne son avis, hein. Il donne son avis, et parfois, il le dit, j'aime les jeux qui sont pas bons, c'est chez Chounet. Il est très dur avec les jeux.
Mais
à chaque fois, il trouve des trucs là, et il y a un truc qui s'appelle le point presse. Et le point presse, à chaque fois, quand tu vois ça, et que c'est un jeu qui est mauvais, hein, qui est factuellement mauvais, ils sont en mode jeu de l'année, magnifique DA, un monde ouvert exceptionnel. Ah, un peu de bug de la partie.
Bah c'est, en fait, c'est ça le problème, c'est aussi les collabs commerciales.
Ouais.
Il y a des jeux qui vont payer des youtubeurs pour dire bah voilà, tu vas parler de notre jeu et nous on te le fait en avant-première, mais toi tu en échange tu parles de notre jeu. Du coup, est-ce qu'ils ont des clauses comme quoi ils ont interdiction de parler en mal du jeu ou de donner les points négatifs, et du coup ils doivent parler que des points positifs? Donc du coup bah forcément, si tu parles que des points positifs dans le cadre de ta collab,
ouais.
Bah du coup, bah forcément ton avis sera biaisé parce que du coup tu vas voir que le bon côté, et toi en tant que client, bah du coup tu vas voir que le bon côté aussi.
C'est et même ça. Sans ça, je reprends rapidement pour qu'on donne une dernière fois notre avis, et puis après on va devoir terminer. Puis il y a aussi autre chose, c'est que dans certains jeux, en fait, ils font des tests en réseau fermé, pas en réseau ouvert, ce qui fait que tout ce qui va être en fait bug de réseau, ils ne l'auront pas. Et en fait, si ils étaient 100% honnêtes et avec une certaine déontologie, parce que là oui, on a, enfin, désolé, je suis cru et je suis dur, mais là-dessus, en fait, quand tu fais un article là-dessus, tu le dis, on a fait le test en réseau fermé.
Oui.
Ce qui fait qu'en fait les serveurs ne vont pas mourir. Et le fait qu'ils soient en mode on l'a testé en avant-première en réseau vert, les gars, genre vous mentez, mais mentez doucement. Genre,
ouais, c'est qu'en fait il manque d'authenticité, il manque de véracité, et il manque y a ce petit côté éthique où du coup on sait pas trop si c'est bien ou pas.
C'est là où tu poses ma question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lire une critique et tout, et de prendre le temps de lire et de tester un jeu et de mettre beaucoup de sous dedans? C'est quand même très cher maintenant les jeux, pour un test qui à la base est pas vraiment un vrai test. C'est quand même dommage de devoir se référer à un truc qui est pas neutre à la base.
Et les jeux aujourd'hui, c'est 80 balles, voire 90.
Tournez-vous, jeux free-to-play.
Des jeux qui ne vous appartiennent pas. Rappelons-le, maintenant, les jeux n'appartiennent pas aux gens, mais j'ai le droit de les utiliser.
Ah bah oui, c'est sûr.
Oui.
Maintenant,
ça questionne beaucoup de choses quand même.
Ça questionne beaucoup de choses, et ça questionne aussi, c'est pas une question, c'est que ça explique la certaine colère et la certaine... et méfiance que vous voyez, on va devoir s'arrêter là, je suis désolé, on va passer à la suite. On va mettre la petite première pause musicale, et ce sera le choix de Claire, et le choix de Claire, ce sera on va couper beaucoup ça, ce sera du coup on va écouter Till It's Over de Fulton Lee. OK, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout.
Call me. I'd rather be on your mind again. something, but you and I have set our price, won't pay a dollar more. No. When you're lonely and you give me a ring, I'll say, baby, don't call me. I'd rather be on your mind again. Baby, don't come knocking. I'd rather be in your head than in your bed. And if you're gonna leave and stay, well, I don't wanna know. If you're gonna play the game, I'm gonna fold them all. Maybe we could keep the faith for a little longer. Cause I don't know many things, but baby, I know that it ain't over till it's over.
Sur Radio G et vous écoutez Pop Flash. Il est environ 19h30 et on se retrouve tout de suite pour la petite chronique avec Claire qui va nous parler aujourd'hui de d'un film.
On va parler aujourd'hui de Wicked. Alors, Wicked, c'est un gros phénomène américain. On peut pas dire qu'en France, il y a une vraie énorme hype de Wicked. Sur Internet et aux US, oui, parce que bah, il y a plus de gens sur TikTok qui sont américains qu'autre chose. En tout cas, c'est quand même ce qu'on flûte plus. Mais donc, je voulais un peu revenir sur ce qu'est Wicked à la base, pourquoi les gens sont fous en fait, parce que c'est très intéressant Wicked. À la base, Wicked, ça parle, c'est très très lié au magicien d'Oz, qui est quelque chose que tout le monde ne sait pas d'après de vue. Par exemple, j'en ai parlé avec des amis qui ont dit « Ah ouais, ça vient de là ?» Oui, effectivement. je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez bien, vous le connaissez bien. Il commence par un S et finit par un B.
Mais
et
non.
Il n'est pas toujours très cultivé sur, sur les shows. Il faut dire qu'à la base, Wicked, c'est connu pour être un des plus gros shows Broadway aux États-Unis. C'est un show Broadway qui a commencé en 2003 et qui suit effectivement la sorcière de l'Ouest, cette fameuse méchante du magicien d'Oz. Mais en fait, on se pose la question plutôt de qui elle est et pourquoi est-ce que c'est devenu la méchante sorcière. Et donc, on suit un petit peu ce début d'amitié entre Glinda et Elphaba, la méchante sorcière étant Elphaba, et comment elles en sont arrivées à là. C'est hyper intéressant parce qu'à la base, donc, Le Magicien d'Oz, c'est un livre qui a été mis en film. Et ensuite, quelqu'un en 95 s'est dit « Je vais écrire un livre sur l'enfance, en tout cas l'origin story de cette méchante », pour qu'ensuite, en 2003 seulement, donc quand même 8 ans après, on sort de ce show Broadway. Et maintenant, là, en 2004, mais le projet est en fait bien plus vieux que ça, on a désormais Wicked au cinéma, la partie 2 étant sortie effectivement début novembre, si je me trompe. Donc, c'est devenu tout un phénomène. Actuellement, sur TikTok, on voit des gens qui rigolent parce qu'on a littéralement de la lessive Wicked. On va avoir du détachant Wicked. Et même si vous avez envie, n'hésitez pas. Je crois qu'on pourrait probablement retrouver des canettes de haricots Wicked en bas dessous Wicked. Tant que c'est rose et vert, c'est Wicked, c'est OK.
Les casseroles creusées.
Les casseroles creusées Wicked que j'ai envoyé à Mel, effectivement.
C'est pas une vanne?
Non, c'est vraiment...
Alors, tu peux avoir soit la casserole rose et verte, soit tu peux choisir de prendre la casserole que verte ou la casserole que rose, sachant que c'est des casseroles en dur, en céramique, qui sont vraiment genre creusées avec les silhouettes des personnages. Est-ce qu'on est obligé de parler des sujets qui fâchent? Combien tu mettrais dedans?
En vrai, alors c'est une casserole creuset, je connais le prix environ des casseroles creusées, c'est très cher. je dirais, allez, c'est une collector ?
C'est une collector.
450 euros.
Je crois que c'est un peu plus simple. Je ne me rappelle plus, nous allons regarder en direct car nous sommes préparés pour tout ça. Oui. Il faut savoir que ouais, Wicked, c'est tout un phénomène en fait. Wicked, c'est très queer en fait. Et il faut savoir que vraiment, c'est des scènes qui ont été coupées des films d'ailleurs, étonnamment. Mais c'est à la base aussi un peu une romance lesbienne en fait entre Elphaba et Glinda. Et c'est des choses qui avaient été prévues au script, parce que c'est difficile de transformer un show Broadway en film musical, mais là ça avait été prévu au script et ça a été coupé. Donc récemment on a une résurgence des petits clips qu'on avait justement avec des trucs qui étaient sortis un peu en avant-première qu'on n'a jamais vu, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était souvent des scènes de romance où c'était en train de faire des petits indices comme quoi Glinda avait plutôt un faible sur Elphaba et qu'elle n'était pas juste jalouse de sa romance. Donc c'est vraiment très très intéressant, et il faut savoir que ce qui est aussi très intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment tout un fond sur le long terme. Donc forcément on a eu le scandale de Ariana Grande qui aurait détruit une famille en même temps qu'elle a divorcé de son mari, parce que tu connais pas ?
Non, j'ai regardé pour les prix de 400€.
Ouais, voilà. Ouais. Ariana Grande était en couple avec un type qui travaillait dans l'industrie, enfin non pas dans l'industrie, dans l'immobilier aux États-Unis. Et il y avait Ethan Slaughter qui, lui, jouait Bob l'Éponge dans le musical Bob l'Éponge. Et lui venait d'avoir un enfant avec une femme. Et il s'avère que pendant Wicked, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, qu'ils ont donc tous les deux divorcé et détruit leur famille, se sont mis ensemble. Et là, c'est officiel. En tout cas, il y a des grosses rumeurs comme quoi ils se seraient effectivement séparés pendant le tournage du film numéro 2. Donc, il y a eu un peu tout ça qui est sorti à ce moment-là du Wicked 1, qui n'a pas entaché le succès du film, je pense, même au contraire. Les gens étaient peut-être un peu curieux de savoir s'ils avaient des scènes de romance entre eux et tout. Pas du tout, en vérité. Pas du tout. Et pour vous dire le phénomène aux États-Unis que c'est Wicked, si vous partez aux États-Unis voir Broadway, il y a un million de chances que ce soit Wicked qui passe. Sachant que je vais vous laisser deviner, de 2003 à 2017, le nombre de représentations aux US qui se sont faites.
2003-2017 ?
Ouais.
567.
Plus.
Ben, 1 million.
Moins.
Non, je sais pas.
5554.
5754.
J'étais pas loin.
Et ça, c'est aux US. D'accord ? Mais il faut savoir qu'à Londres, il y en a eu 4567. Donc c'est un phénomène très très anglophone. Et c'est vrai que nous, Magiciens d'Oz, ça fait pas partie de notre folklore à nous, plus que ça,
pas
en
trop,
France.
Ouais.
Mais il y a un vrai phénomène d'effectivement, bah, cette petite fille du Kansas qui arrive dans un monde magique et tout ça. Et c'est un peu relié aussi à cette mode qu'on a eu récemment dans les films de l'anti-héros. Elphaba, c'est exactement ça. C'est pas à la base une gamine méchante, en fait. Et c'est devenu cette méchante dans un film. Donc les gens aiment bien savoir l'évolution.
Mais ça me fait penser un peu, et peut-être que Disney s'est peut-être inspiré de Wicked, du coup, tu vois, par exemple, Maléfique.
Ouais.
Et il y a beaucoup de choses comme
ça. Pense.
Et en fait, rien que quand tu m'as parlé de la présentation de Wicked de 2003, je me suis dit, purée, mais en fait, Disney sont sûrement grave inspirés de ça, en
absolument.
Fait. Et je trouve ça... En fait, moi, j'adore quand ça met de la profondeur à des méchants.
Ouais. Hein.
Et je trouve ça drôle, mais du coup, ça leur donne trop de profondeur. Et des fois, c'est ah, mais en fait, ils sont pas si méchants que ça. Et puis au final, ils sont trop mignons et tout gentils, comme Maléfique par exemple.
Ouais.
Est-ce que c'est pareil dans Wicked ou sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz? Alors, moi, je parle du film qui est sorti il y a très longtemps. Et...
Ouais, tout à fait, voilà. Qui est sorti en.
Alors, je crois qu'il y a deux versions, la version noir et blanc et
avec
la version.
Moi, j'avoue que je me base plutôt sur la vie. Ouais, c'est ça. Sur,
moi, j'ai la version
Garland,
colorée.
Ouais. Qui était complètement craquée. En plus, à cette époque-là, il faut le savoir.
Ouais.
Tout le film, elle était mais complètement stone. Mais ouais, c'est 39.
Ouais. Stylé.
39.
Ah, ouais.
Mais il faut savoir que Wicked, dans nos têtes, c'est un truc très récent parce qu'il y a eu tout ça. Mais Wicked, c'était en 2003.
Ouais.
2003, j'avais un an. 2003, c'était il y a 22 ans. C'est dingue. Moi, je trouve ça absolument dingue.
J'ai mal à mon âge.
Ouais. Moi, je trouve ça absolument dingue parce qu'en fait, c'est genre super relevant à l'époque actuelle. C'est toujours très moderne.
Ouais.
Ça parle beaucoup aussi de racisme, Wicked. Ça parle beaucoup de la libération de la femme et aussi des rôles imposés qu'on peut avoir et juste des préjugés qu'on a tous. Et j'adore. Et effectivement, je pense que ça a inspiré beaucoup de ces films. Et c'est un peu rigolo à cette époque où tout est un remake, tout est toujours une suite. Bah, Wicked en soi, c'est un peu pareil. Et c'est encore plus pareil dans le sens où Wicked, c'est base sur 5 livres.
Ouais.
Donc là, récemment, ils ont annoncé quoi ? Bah, ils ont annoncé qu'ils allaient faire tout un film sur Glinda.
Donc, ah ben oui.
Sachez que ce n'est pas fini, ça continue en
fait. Et du coup, ça s'appellera Wicked 3 ou ça sera...
Je ne sais pas, parce que le deuxième s'appelle Wicked for Good, donc Wicked pour de bon, on dirait en français. Okay. C'est vraiment plein de jeux de mots, donc je pense qu'on aura un peu pareil.
Ok.
Vous n'avez pas peur que ça devienne un peu comme... je vais parler du jeu, comme les Star Wars, en fait, en gros. Ils vont toujours essayer de tirer.
Je pense pas, parce que justement, là, pour le coup, on a cette toile de fond où Wicked s'est déjà écrit. Et le type qui a écrit Wicked est toujours très, très actif à l'heure actuelle et a un gros contrôle artistique dessus. Okay. Donc, je pense que pour le coup, ce ne sera pas le cas. Et ouais. Ça va assez vite s'épuiser, parce que aussi, les gens, au bout d'un moment, on le sait, ils en ont un peu marre de ça. C'est ça.
Et puis surtout là il y a cinq livres du coup.
Ouais.
Donc je pense que du coup ils ont quand même pas mal de contenu avant de finir ça, et donc ça sera pas étiré.
Et ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est très 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 fort sorti sur les réseaux, mais c'est qu'en fait c'est un vrai hommage aux séries et au spectacle de Broadway, parce que justement il y a toute une scène un peu d'amour où ils se mettent sur les genoux comme ils le font sur le théâtre.
Oh.
Et il y a vraiment, et c'est pareil, il y a un moment où ils refont exactement la devanture. Donc quand vous allez voir le Broadway Show, où ils sont comme ça, c'est vraiment rempli de coucou au Broadway Show. C'est vraiment hyper fidèle et c'est très intéressant, parce qu'en fait, par exemple, Ariana Grande, elle a raconté que pour être Glinda, elle s'est préparée. Elle n'a acheté que des vêtements roses, ne portait que du rose. Elle était vraiment en méthode acting, c'est-à-dire le fait de se transformer en son personnage littéralement. Pendant au moins un an avant, elle a changé son accent pour Wicked et sa façon de parler. Et à l'heure actuelle, il y a des interviews qui la comparent à avant. Elle a changé ça. Et il y a quelques années, sachez-le ou ne le sachez pas, Mika est passionnée par Wicked, genre le chanteur Mika. Et donc, il avait chanté une chanson avec elle qui était inspiré de Wicked. Et c'est dingue, parce que c'était un gros succès à l'époque.
Si, tu l'as déjà entendu.
Tu l'as déjà entendu.
Parce que ça a été une trend TikTok à un moment
j'ai
donné.
J'ai dû l'entendre aussi, c'est juste que je savais pas que c'était lui.
Ah oui,
je l'ai déjà entendu, mais je savais pas que c'était lui, pour le coup.
Et oui, et du coup, Popular, c'est une chanson du film Wicked 1, c'est une chanson du Broadway Show, c'est une des plus connues. Et en fait, c'est dingue, parce qu'on se pense tellement éloigné du truc et que c'est un truc tout récent. Non, pas du tout. Ça a 22 ans. Mika l'a chanté dans les années 2010. Et à la base, ça vient vraiment d'un film qui date de 39. C'est pour ça que je voulais en parler.
C'est fou. Hein.
En vrai, ça me donne grave envie de le voir. Je suis pas très comédie musicale. Enfin, ça dépend. Encore une fois, je suis pas très plus du comédie musicale. Je regarde plein de trucs, en fait, qui sont des comédies musicales.
Has Been Hotel, t'as kiffé. Oui. Pourtant, c'est vraiment une comédie musicale. Hein. Et Luva Boss aussi, un peu moins Luva Boss que Has Been Hotel.
Un peu quand même, hein.
Ouais, mais un peu moins que Has Been Hotel.
Un peu moins, je trouve.
Parce qu'Has Been Hotel, c'est vraiment genre, ils ont une émotion, ils chantent direct.
Oui.
Tu vois, genre, et ça, c'est la comédie musicale.
T'as fini ou pas de regarder la saison 2?
Ouais.
Bon, on parlera de la saison 2 à la prochaine émission.
Ouais.
Mais je suis encore une fois en train de voir le temps. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder Wicked?
Moi, grave.
Ah bah moi j'ai déjà regardé les deux, donc c'est mort. Mais par contre je pense que je vais les re-regarder si telle est la question.
Moi ça m'a donné grave envie aussi de le faire, et la vraie question c'est, est-ce que le public ça vous a donné envie de voir Wicked? On espère que ça vous a donné envie, parce que c'est le but. On va se retrouver tout de suite avec la deuxième pause musicale.
Oui,
celle de Mel.
Et petit fun fact, c'est Indina Menzel. Si t'as fait tes recherches, Claire, peut-être que tu sais, Indina Menzel qui joue la sorcière de l'Ouest dans Wicked, la version Broadway.
Et du coup, on écoute quoi?
Et on écoute Indina Menzel, Kuna.
To landscapes of greenery, a great day will begin when it's so warm and dense. The endless layers of little falls spreading out so far. Every day calls for a new odyssey. If there is happiness to share,
hop around and drum some beats.
If there is sorrow to beware,
roll them off in my dealer.
If there's gratitude to share,
sing a song.
Achieving
that we're falling, let's go and find it out.
Can I let Kuna, the vastness of the sea, walking on seashores, bring
too much hitting that buffer lane. Let's go and find it.
Retour, et du coup c'était Kuna Itzaland de... Attends, on t'entend pas. De
Indina Menzel.
Est-ce que ça vous a plu? En vrai c'était plutôt cool.
Très festif.
Il y aura un gros sujet à un moment sur Infinity Nikki.
Mais sur une musique chill.
On va se retrouver pour notre dernière chronique de la journée, de la soirée,
soirée.
Il vit dans le noir, faut le comprendre.
Oui, voilà. Je n'ai jamais vu la lumière du jour depuis. Et ce sera du coup une chronique Qu'est-ce qu'on lit ? Et ce sera avec moi. Et on se retrouve du coup juste après la virgule.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit ? Aujourd'hui, on lit Centuria. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Centuria ?
Oui.
Oui ?
Non.
Ah oui ? Bah oui, par moi en fait.
Oui.
Évidemment. Alors, à la réaction de Claire, vous doutez que c'est peut-être un manga que j'aime beaucoup. Il y a deux tomes qui sont sortis. Actuellement, attention, les mots vont être forts, mais les mots vont être justes. Dans ce qui est Dark Fantasy de nouveauté qui sort, je pense que c'est ce qu'il fait de mieux. Évidemment, c'est pas un Berserk, évidemment, c'est pas tout ça. Mais niveau Dark Fantasy, pour l'instant, je pense que c'est ce qui se fait de mieux en sortie de nouveauté. Qu'est-ce que c'est, Centuria ? Centuria, c'est un seinen de Dark Fantasy qui a été fait par Toru Kuramori, qui est une jeune mangaka, j'avoue que je ne le sais pas, qui a fait ses débuts dans le Jump Plus avec quelques petits one-shots, avant Centuria évidemment. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme formation ? Ben, elle a été l'assistante de Tatsuki Fujimoto. Je crois que c'est une femme, c'est pour ça que je dis elle, hein, mais je peux me tromper, qui est l'auteur de Chainsaw Man et qui, du coup, on peut revoir certains... En fait, ça se voit un peu dans son dessin qu'elle a été avec elle et que c'est avec lui/elle qu'elle a appris. C'est une histoire qui a été assumée comme étant une histoire qui représente la détermination de l'être humain et qui a commencé du coup début 2024 et qui a eu un très très bon démarrage en se plaçant à la 7e place du Next Manga Award de 2024 dans la catégorie Web Manga. Comme je l'ai déjà dit, c'est de la dark fantasy, c'est du shonen, ça va avoir un ton qui va être assez violent, brutal, mais qui n'est pas gratuit pour le coup, ce qui est assez agréable. Et on va suivre du coup Julian, qui est un survivant slash esclave, qui va devenir dépositaire d'un pouvoir qui va être assez fort, et qui va venir directement d'une divinité marine. On est au début en tout cas dans un rythme qui va être assez rapide, assez efficace, avec une exposition qui va être bien faite pour le coup. Et actuellement, il n'y a que deux tomes, mais dans ces deux tomes, ça m'a déjà permis de vraiment, vraiment apprécier, en fait, tout ça. C'est pas pour tout le monde, encore une fois, c'est assez rude. Ça se passe au tout début, il y a une grosse scène de massacre avec une scène de mise au monde qui est assez... Voilà.
On vous dira bien de ne pas manger en le faisant, mais généralement, si vous mangez en lisant, vous avez déjà un problème.
Merci, j'allais le dire. Mais du coup, c'est une ambiance qui est quand même très maîtrisée, avec une narration qui est assez fluide. On a, dès le début, l'introduction du coup, de divinités et de mystères qui vont être mis en avant et qui vont pas donner à voir. On va pas tout de suite avoir des réponses. Et en fait, dès qu'on va commencer à avoir des réponses, il va y avoir d'autres mystères qui vont être mis en place. Alors, c'est les deux premiers tomes, donc j'ai envie de dire c'est normal. À voir si ça continue dans le temps. Et du coup, dans ce cas-là, ça pourrait devenir problématique. Mais pour l'instant, tout ça me paraît bien. La fin du deuxième tome, ça donne vraiment envie de lire la suite. Alors, il est à la maison. Un jour, je vais vous les prêter. Mais encore une fois, il faut aimer la dark fantasy, il faut aimer tout ça. Mais je trouve que c'est, je le conseillerais à toutes les personnes qui ont à tes souhaits.
Pardon.
C'est pas grave, on l'a pas entendu. Mais voilà, pour ce qui est des chara design, ils sont assez simples.
Oui.
Mais est-ce que c'est mal d'être simple ? Non. On reconnaît très facilement les personnages, ce qui pour moi est un vrai point fort.
Non, puis Berserk aussi, c'est pas non plus le truc le plus... Enfin, j'allais dire le plus dessiné, mais c'est pareil. Hein.
C'est très beau, Berserk.
Ouais, mais de ce que j'ai vu, Centuria, ça avait l'air très très beau.
C'est un peu la même plume à mes yeux, quand même.
Ouais.
Il y a un peu la même plume. Après, faire attention à ce qu'on dit sur Berserk, parce qu'après, il y a des Berserk qui, qui vont nous envoyer des déclarations de mort imminente. Mais non, Berserk.
Et je corrigerai leur faute porte quoi.
Non, mais Berserk a des très belles planches. Plus belles que Centuria sur certains points. Vraiment, quand. Ouais. Mais, encore une fois, d'un point de vue. En fait, Berserk, on va dire, a posé beaucoup de bases. Je vais pas me lancer dans une critique de Berserk parce que j'ai déjà eu des gros débats sur Berserk, sur mon avis, avec des fans de Berserk. Je dis pas que c'est mauvais.
Mais il a encore peur d'eux.
J'ai encore un peu peur d'eux.
Trauma.
Mais en fait, le truc, c'est que Berserk est très bien. Ouais. Mais Berserk est un peu la base. Et un petit côté surcoté. Mais on va pas en parler aujourd'hui.
Oui.
On en parlera un jour.
Parlons de Centuria.
Je
ne
vais pas en parler, mais je vais lancer une critique. Et arrêtez.
Et voilà. Exactement. Mais pour ce qui est de tout ce qui va être aussi pouvoir dans Centuria, ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai l'impression que c'est très inspiré de tout ce qui va être occultisme dans D&D. Où en fait, on ne naît pas avec des pouvoirs, de ce que j'en crois et de ce que j'ai mes théories. Mais on gagne ces pouvoirs liés directement. Lié à du coup un pacte que tu vas faire avec un dieu qui va pas te donner toujours le même genre de pouvoir. Actuellement, je ne dirai pas qui, quoi, comment a eu ça, mais il y a quelqu'un qui a littéralement le pouvoir de 300 vies humaines, ce qui est pas mal. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir qui est lié à l'eau, et je pense qu'on finira par le voir, mais on ne l'a pas encore vu, quelqu'un qui sera vraiment lié à la nature, parce que d'un point de vue purement des divinités qu'on a vues, il y a une divinité qui n'est pas nommée, mais qu'on sait qui est là et qui se balade. Il y a quelque chose qui se ressemble vachement au diable, parce que le bouc qui regarde et qui a l'air d'être un peu creepy. Bon, il y a une grosse divinité de la forêt que j'aime beaucoup, avec tout le côté de réutilisation des cadavres pour les transformer en gardiens, tout ça qui est très cool. Et il y a du coup la divinité du héros, qui est la divinité de la mer, qui prend la forme d'une espèce de grand poulpe, tout ça, que j'aime beaucoup.
C'est un kraken, non ?
C'est une espèce de kraken. En fait, on sait pas si c'est un kraken, parce que c'est un kraken à moitié en humanoïde.
C'est très Lovecraft.
Ça fait très très Lovecraft, vraiment. Et qui, alors, c'est peut-être moi qui ai un humour qui est un peu pas bon, mais il y a certains passages qui personnellement m'ont fait rire. Peut-être que c'était pas censé faire rire. Mais moi, ça m'a fait rire.
Et il classera le film en humour.
Humour.
Des tripes à l'air. Ah, ça, c'était drôle.
Non, y a
comédie.
Il y a beaucoup de passages en fait qui m'ont fait rire parce que la situation est atroce. Mais il y a un côté un peu drôle de le héros qui plonge pour aller casser la gueule et catch this end à une créature à moitié mythique dans l'océan et qui finit par dire en mode tu vas mourir noyé et qui finit par dire au secours lâche-moi à l'aide. Peut-être que c'était pas censé être drôle, moi ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, beaucoup de personnages sont très attachants. Le héros qui a eu la vie qu'il a eue est extrêmement attachant. Le bébé qui a seulement des gens est aussi très attachant. Pour le coup, parce que sa naissance est pas ouf. Mais tout ça, les personnages qui avec qui le héros vont s'attacher dès le premier tome, et ça continue un peu dans les deuxièmes, deux, trois, quatrième tomes, aussi sont vraiment, vraiment très attachants, même si le tome 2 me fait peur sur la suite. Moi, j'aime bien les familles heureuses. Je suis pas sûr qu'on pourra avoir une famille heureuse, mais... Allez, on croise les doigts, ça peut aller.
Au pire, il en rigolera.
Pas sûr. Pas sûr, parce que vraiment, la fin du tome 2, j'ai peur de où ça va aller. Pas j'ai peur en mode ça va être nul, non, mais j'ai peur que mon petit cœur va être brisé parce que je m'attendais à quelque chose de bien quand même.
Merde.
Mais parce que derrière cet énorme aigri, il y a peut-être encore. Mais on verra peut-être un jour.
Il est en train de repousser de tri en.
Et ça fait très mal. Mais il y a beaucoup d'importance dans la symbolique. J'ai beaucoup l'impression, alors c'est mon interprétation personnelle, que le pouvoir est très lié à la mort est très nouée par celle-là. Bah, encore une fois, quand on parle de la divinité de la forêt qui utilise des cadavres pour créer des gardiens, ce qui est assez malsain parce que dans un sens, en fait, des personnes qui disparaissent en forêt vont se retrouver à se battre contre des proches qui vont les chercher. Parce que, ben voilà, le héros qui trouve ses pouvoirs dans la mort de personnes qui l'ont protégé. Voilà. Autre moment que j'ai trouvé très drôle, mais là c'est plus de rire là. Le mec qui a essayé de tuer le héros, qui est en mode, mais on est amis! Mais regarde, je te donne 50% de ce qu'on va gagner comme argent. Ouais, ben ta mort me fera beaucoup plus rire qu'autre chose. Parce que t'es pathétique et que c'est bien aussi de voir parfois que l'humain peut être pathétique. Mais voilà. Dans l'ensemble, vous voyez que j'aime beaucoup ce genre de récit, mais la vraie question, c'est, je vais très fort regarder la suite parce que est-ce que ça va tomber dans le cliché? Est-ce que ça va tomber dans la surenchère? Est-ce que ça va tomber dans la violence gratuite ou pour l'instant il n'y a pas eu de sexe et j'avoue que de la dark fantasy sans sexe, c'est quelque chose qui personnellement bah, c'est bien pour une fois pas avoir vu des VSS, quoi.
Ouais.
On n'en parle pas assez.
Il y en a beaucoup dans la dark fantasy, dans le milieu du manga.
Celui par lequel j'ai été, moi, rentré dedans, c'est Hubbleblatt. Mmh. Et Hubbleblatt, j'aime beaucoup Hubbleblatt. Il y a beaucoup de bons points à Hubbleblatt. Mais à un moment, le côté dark fantasy a été... Il y a eu beaucoup de violence gratuite. Il y a beaucoup de sexe avec des personnages qui ont parfois l'air un peu jeunes, pour ce qu'ils sont réellement, qui ont été mis en place... Et du coup, ce qui fait que, encore une fois, aujourd'hui, je continue à lire Hubbleblatt, je le recommande pour les gens qui aiment ça, parce que, encore une fois, c'est jamais full gratuit. Il y a toujours des trucs qui sont derrière, c'est pas comme... C'est même pas de la dark fantasy quand je parlais ça, mais c'est même pas comme dans le manga, comment il s'appelle encore, celui que j'ai conseillé et que j'ai plus envie de voir.
Oui.
Voilà.
Ergir.
Mais c'est quelque chose qui me fait un peu peur. En fait, j'ai jamais été très à l'aise avec tout ce qui va être côté sexe gratuit dans les mangas. Parce que on peut pas en rigoler. On peut pas juste faire normaliser ça. Il y a un vrai problème dans le monde du manga avec la sexualité, avec certains mangas qui sont très bons. Ça pourrait se rassembler. Vas-y, continue.
C'est surtout le consentement et les trucs comme ça qui est problématique. Parce qu'en soi, s'il y a
de la sexualité infantile.
Bah après, oui, voilà. Mais s'il y a de la sexualité entre adultes consentants dans un manga. C'est pas dérangeant, tu vois.
C'est pas dérangeant, mais encore une fois.
Sauf si t'aimes pas ça, t'as le droit, tu vois, mais ça, c'est pas forcément le plus dérangeant. Moi, ce qui me dérange, c'est que beaucoup de trucs dans la dark fantasy, ils se disent, vu que c'est dark fantasy, il faut que ce soit le plus sale possible. Et du coup, ils font des trucs vraiment horribles. Et notamment.
L'horrible pour l'horrible, ça sert à rien.
Ouais, voilà, c'est ça. Une dark fantasy, c'est pas forcément. Du corps ou des choses dégueulasses.
Va y en avoir, la dark fantasy, c'est quand même très basé sur le côté. C'est un monde de fantasy, mais c'est pas un monde de fantasy où il y a de l'espoir. L'espoir,
oui, c'est violent.
C'est violent, c'est sale, et dans un sens, ça va être un peu plus, je mets des gros guillemets, réaliste. Dans le sens où la vie n'est pas toujours en long fleuve tranquille, les elfes ne sont pas tout beaux, tout gentils, et vont vivre pendant des siècles en mangeant des carottes et en caressant des licornes. Mais encore une fois, il y a ce côté où je te rejoins là-dessus. Du sale pour du sale, c'est pas bon. Berserk a, pour toutes les critiques que je lui ai données, ce côté positif de ce n'est jamais gratuit.
Oui, voilà, c'est ça.
Et ça, c'est très bien. Hubbleblatt, il y a un peu moins ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça que ça a eu moins de succès.
Et Centuria, du coup, n'a pas ce côté-là.
Il n'y a pas ce côté-là. J'ai pas encore vu ce côté-là. Il y a eu des moments où j'ai eu très peur qu'on tourne là-dessus et pas du tout, en fait. Et du coup, c'est bien. Le héros n'est un peu moins ce côté aussi héros de l'enfer, Doomslayer, je suis l'apocalypse qui arrive. C'est un enfant qui n'a pas eu d'enfance et qui cherche tout simplement à être aimé et à avoir une famille, ce qui peut être agréable.
Ce qui peut être agréable d'être aimé, je sais pas.
Je sais pas.
On n'avait jamais testé.
Dans l'ensemble, vraiment, c'est bien. Il y a un bon dessin, il y a une bonne ambiance. Et c'est un peu en vent de fraîcheur dans la dark fantasy, parce qu'il y a plein de dark fantasy qu'on pourrait mettre dans la dark fantasy qui sont pas mis dedans. Mais par exemple, encore une fois, on va pas faire une critique de ça, mais genre Made in Abyss, ça pourrait être vu comme de la dark fantasy.
Oui.
tout le côté descente, tout ça. Et je sais qu'on a un gros débat sur est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste. On a chacun son notre avis. Moi, je l'ai. Je connais ceux avec qui je fais là. On va pas le dire là parce que j'ai pas envie de rentrer en débat avec d'autres personnes que je connais.
Ouais. Pas maintenant.
Pas maintenant, du moins.
Pour l'émission de Noël, peut-être.
Pour l'émission de Noël, peut-être.
C'est joyeux pour Noël. Joyeux Noël.
Du sapin.
Au coin du sapin, moi, personnellement, ça me dérange. Il y a un vrai côté avec la sexualité infantile au Japon.
Ouais.
Oui, ça.
Il y a un vrai problème avec la sexualité au Japon.
Oui.
Mais c'est une autre culture. Non. Mais voilà. Dans l'ensemble, pour l'instant, Centuria, je lui mets en solide 8,5 sur 10. Ce qui est rare.
Oui, quand même.
Est-ce que vous, ça vous a donné envie de le voir?
Grave. De le lire, ouais, grave. Et question, il y a combien de tomes qui sont sortis pour l'instant?
Deux, il y en a trois au Japon.
Trois au Japon et ouais. Le troisième est en cours.
Ouais, il va sortir. Non, il va sortir.
Il va sortir.
Et ça continue.
Moi, je pense pas. Pas parce que tu l'as mal présenté ou quoi, mais parce que c'est peut-être pas ce que j'aimerais lire, tu vois.
Je peux comprendre.
Du coup, tout ce qui est genre dark fantasy, c'est pas toujours particulièrement ce que j'aime. Donc je pense que c'est pas le genre de truc vers lequel j'irais.
T'es pas le public.
Ouais, je pense pas être le public pour ça. Mais ça reste intéressant, hein, franchement. Mais
parfois, c'est que ça aussi, hein, tout simplement, on n'est pas le public. Ouais. Il y a des trucs où on n'est pas, pas touché. Ouais. Mais on va
pas toucher.
Toucher à la fin, justement, à la fin de l'émission. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Un mot pour la fin, Mel.
Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, dans deux semaines.
Et un mot pour la fin, hein, Claire.
Cocorico.
Des bisous tout le monde et à dans deux semaines.
À dans deux semaines, bisous.
To keep from falling, I've been running, but the past keeps falling. Took a risk even though it might hurt me. But the fire in my chest keeps burning. I'm a pure out of time. Catch your breath, count to ten. Take a sec, I'm feeling nauseous. Say I'm fine, but again. These thoughts weighing on my conscience. I think I'm losing myself. Too hard-headed, don't need no help. Crazy talking, it's funny, I got your bullet right over my belt. Guess you're walking through the flames, no one in my way. Nothing else has really changed, just a bigger stage.